Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Voilà, je vous propose, s'il vous plaît, d'ouvrir avec moi votre Bible. Et nous allons aborder un sujet qui ne nous est certainement pas étranger aux uns et aux autres. Et nous allons en effet ouvrir un passage, un texte, oh ça sera pas très long, Colossiens chapitre 2 verset 8. Certainement que ce passage écrit par l'apôtre Paul, eh bien, nous le connaissons, nous l'avons lu et relu. Et nous allons justement eh bien, lui apporter un commentaire qui est tout à fait d'actualité aujourd'hui. Un chrétien n'est pas en dehors du monde. Hein. Jésus, je rappelle, a prévenu ses disciples, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal qui est dans le monde. Alors, on va faire la lecture et je ferai le commentaire ensuite. L'apôtre Paul écrit chapitre 2, Colossiens chapitre 2, verset 8. C'est une mise en garde. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires, les principes naturels du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et en guise d'encouragement pour nous pour tenir ferme, eh bien, il est ajouté, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Ce qui pourrait peut-être signifier pourquoi aller chercher vous? Pourquoi écoutez-vous? Pourquoi voulez-vous voir ailleurs ce que vous avez déjà? On peut le résumer de cette manière. Ça ne vous a certainement pas échappé dans la Bible entière, Ancien et Nouveau Testament. Il y a deux catégories de personnalités, deux catégories d'hommes. Il y a les enfants de Dieu, il y a ceux qui écoutent Dieu, qui vivent avec Dieu, qui entendent Dieu et qui naturellement eh bien, conforment toute leur existence autour de ce qu'ils ont compris, de ce qu'ils ont en effet reçu de Dieu. Ce sont les chrétiens, les croyants de tous les temps. Et puis, il y a une autre version, une autre catégorie, une autre sorte, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a les séducteurs et les intrigants. Il y a les bons et il y a les mauvais. Vous avez remarqué que dans le sermon sur la montagne, Jésus nous dira « Dieu fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants ». Ça, la répartition, eh bien, est la même. Maintenant, il y a en effet un abîme entre les deux. Il y a la vérité et l'erreur. Il y a la lumière et les ténèbres. Je vous donne quelques exemples, séducteurs et intrigants, qui ont jalonné l'histoire de l'humanité sur Terre. Ah, ça pourrait commencer dans le jardin d'Éden, avec nos premiers parents, avec les deux fils, Abel et Caïn. Et puis on peut les multiplier, d'ailleurs c'est ce qu'on va faire maintenant. Les séducteurs et les intrigants. Ils existent aussi dans la Bible. On pourrait peut-être être pénétré de la lecture de la littérature policière, de tout ce qui se passe, parce que les gens aiment ça, hein. Quand il y a des crimes, des meurtres, des coups de main, enfin toutes sortes de choses. Les guerres. Eh oui, les gens ont peur, c'est vrai. Les honnêtes gens ont peur, ça, c'est sûr. Mais il y a les gens qui aiment le croustillant, pour que ça bouge, pour que ça soit violent, pour qu'il y ait du sang, pour qu'il y ait toutes sortes de choses. Et ces gens-là, eh bien, ils sont partout. Si je parle de l'Ancien Testament, vous savez, j'ai cité qu'un. Bon. Mais on pourrait parler de toutes ces confrontations qu'il y a eu, de toutes ces oppositions, de ces contradictions, de ces contradicteurs. Quand je pense à Sanballat et Tobija, qui voulaient empêcher Néhémie, l'homme de Dieu, de reconstruire les murailles de Jérusalem, il en a vu. Et puis on peut parler finalement, eh bien, de tous ces rois du monde, Nebuchadnezzar. Et puis tous ces gens qui ont été véritablement Balaam, si on veut véritablement l'identifier à l'occultisme. Et puis il y en a bien d'autres. Dans le Nouveau Testament, un Judas. Pourtant, il a touché de près véritablement la vérité. Hein. Et puis Simon le magicien, et Diotref. Alors je m'arrêtais là parce qu'il y en a des. J'ai préparé depuis 2 ans une étude. Parce que quand je suis à la retraite, je travaille. J'ai repéré qu'il y avait véritablement une trentaine, mais alors des notoires, hein, c'est pas des gens qui apparaissent et puis qui disparaissent, mais qui sont véritablement, dont l'histoire a écrit des chapitres qui ont été écrits, en disant, eh bien, prenez garde que personne ne vous abuse, ne véritablement, eh bien là, dénature la bonne parole de l'Évangile, vous entraînez dans leurs mensonges, dans des cultes occultes. Ça a été constant, hein, finalement. Hein. C'était constant. Alors, ces gens-là, ces séducteurs et ces intrigants, existent dans la Bible. On n'y fait pas attention parce qu'ils sont mélangés avec les autres, avec les vrais, avec les bons, avec les croyants. Et nous savons qu'il y a là naturellement une inspiration qui ne vient pas seulement des hommes, mais parce que l'homme a péché, il a laissé une brèche, les portes sont ouvertes. Les fenêtres sont ouvertes pour laisser pénétrer finalement l'erreur, pour laisser pénétrer la violence, la cruauté, toutes sortes de choses. Et il s'appelle le grand séducteur. Ne vous laissez pas, nous est-il dit, que personne de vous ne fasse sa proie, une proie, c'est une victime. Pas toujours innocente, mais elle est là, eh bien, finalement, eh bien, victime de toutes sortes de choses qui vont l'emporter. Et qui vont changer la nature de cette proie, en quelque sorte. Et le monde, depuis les temps immémoriaux, depuis le livre de la Genèse, a été capté. Qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui? On voit un monde de folie. Et on est tous à être complètement stupéfaits de voir l'augmentation. Et ce n'est pas une fois de temps en temps, c'est tous les jours. Alors naturellement, il y a une mondialisation de l'information. C'est certain que ça vient par grosses vagues. Hein. Mais néanmoins, on le voit, ça a toujours existé, c'est vrai, dans la politique, dans le concours pour être le premier, pour finalement, eh bien là, diriger le monde, toutes sortes de choses, en économie, au niveau finalement du monde social. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors il se nomme Satan, le premier, d'une manière doucereuse, qui vient dans ce si beau jardin et qui dit cette parole qui est le début du mal, de la mort, de tous les fléaux de cette terre. Est-ce que Dieu aurait-il réellement dit? Le doute. Voilà. L'instillation du doute dans les consciences, dans les esprits, ça n'existait pas avant. C'était l'amour, c'était la confiance, c'était. Mais là, c'est le poison. Ça a amené le virus. Ça a amené les bactéries. Mais à tous les niveaux, hein, que l'on puisse dire. Hein. Dieu aurait-il réellement dit? Alors, je répète mon introduction, s'il existe une humanité aux bonnes intentions et bienfaisantes, et moi je veux le croire, que l'homme est bipolaire en quelque sorte. Il peut être bon, mais il peut être mauvais. Voilà. Maintenant, il peut se maintenir dans sa bonté, dans l'amour. Mais il peut virer complètement et s'effondrer dans, Eh bien, la méchanceté, dans le mal. La Bible, nous place devant une autre réalité des hommes, dont les dispositions sont tout autres, jusqu'à nous scandaler, jusqu'à l'outrage, jusqu'à véritablement plus savoir qui croire, que penser et que faire. Cette catégorie, on les nomme les moutons noirs. C'est toute l'étude que j'ai faite, 27 chapitres. Et je détaille tout ce que je suis en train de vous dire ce matin. On m'a en délayé, naturellement. Les moutons noirs. Vous savez qu'un mouton noir, parmi 10 000 moutons blancs, ça se voit. Ben oui, ça se voit. On peut le voir de loin, mais ça se voit. Réduisons peut-être la quantité du troupeau. Mais c'est comme ça. Les moutons noirs. Le monde appelle ces gens des moutons noirs. Et au profil, quand on fait une introspection sur la nature même de cette personnalité qui s'étend de la malice, il y a quelque chose, comme nous l'avons lu, ne fasse sa proie par la philosophie et une vaine tromperie. Il y a là le mensonge primaire, le mensonge du début. Alors, ça va de cette malice, la pensée qui se pervertit et qui va trouver finalement là quelque chose de perverti, qui va pervertir le bien, qui va pervertir à la pure malveillance jusqu'à la cruauté. Quand on lit l'histoire, ne serait-ce que de notre pays, en passant par les guerres des religions, en passant par les conflits entre les nations du Moyen-Âge et puis même plus près, en pensant ne serait-ce qu'à notre 20e siècle, qui a été le siècle de l'épouvante mondiale. Alors, je ne parle pas encore du 21e siècle. Mais on sait que Jésus nous dit « je reviens bientôt », mais il va revenir. Ça, c'est clair. Mais l'autre, il ne va pas rester inactif. Il va être lâché sur le monde avec des moyens terrifiants. Je ne voudrais pas vous faire peur, mais ça fait partie du plan de libération. Parce que, contrairement à ce que nous pourrions penser, l'Apocalypse n'est pas un film d'horreur, mais c'est une promesse de délivrance pour ceux qui croient en Dieu. Ne craignez rien. N'ayez pas peur. Tout est prévu d'avance. Si vous voulez vous en convaincre, j'ai qu'un livre à vous recommander. C'est la Bible. Ouais. Et encore faut-il savoir la lire. Parce que si c'est pour la lire avec des pensées d'horreur et de mort, c'est pas la peine, lisez-la pas. Si vous n'avez qu'une version ténébreuse. Mais elle prévient. Par contre, si vous voulez véritablement être rassuré, c'est aussi un message de grande espérance que la disposition, que la dimension d'aujourd'hui aura une fin. Ouais, il y aura une fin. Alors, séducteur et intrigant, qui cherche à nuire au bien, à la vérité, à faire le mal à leurs semblables. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore d'extraterrestres parmi nous. Il y a des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, etc. Mais on est des hommes, avec tout ce qui peut se brasser à l'intérieur de nous-mêmes, dans nos pensées, à travers nos colères, à travers nos larmes, nos pleurs, devant la souffrance. C'est ainsi qu'est notre monde. L'exposé qui va suivre maintenant est bien le reflet d'une certaine société humaine omniprésente, c'est-à-dire présente partout. Le phénomène est présent partout, sous toutes les latitudes, dans tous les continents, dans diverses déclinaisons de la religion, des politiques, des régimes, tout ce que vous voulez. Ça, c'est l'histoire du monde, de notre monde d'aujourd'hui, comme il est depuis toujours. Il y a le dévoilement de la personnalité, de leur personnalité au mouton noir, et elle est dangereuse. Prenez garde. Ne soyez pas des enfants. Ne soyez pas des, comment dire, des crédules. Ne soyez pas des bénis oui-oui. Excusez-moi l'expression, hein. Je peux faire sursauter. De ceux qui gobent tout. On les appelle des gogos. Mais le chrétien est un homme informé. S'il est conséquent avec ce qu'il lit, particulièrement les messages du Nouveau Testament avec la venue de Jésus qui nous a dit « Je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vie », alors à ce moment-là, il n'y a pas à se tromper. Le mot d'ordre, prenez garde à eux, à ces gens-là. Je vais aller un peu plus loin. Je voudrais vous parler un petit peu plus en détail des moutons noirs. Leur profil, pour les reconnaître naturellement. Quels sont les phénomènes au pluriel? Quels sont les phénomènes de leur personnalité qui est nommée ainsi, qui les nomme ainsi moutons noirs? Alors il s'agit d'une métaphore naturellement, hein, pas autre chose, qui désigne une personne considérée comme marginale par rapport au reste du groupe, à l'humanité si vous voulez, hein, pour l'agrandir, au comportement déviant. On a chanté ce matin « Je veux être comme toi, mais comme toi, Seigneur, pas différent de toi. » L'amour de Jésus. « Je veux voir comme tu vois, je veux aimer comme tu aimes, je veux parler comme tu parles. » Et tout le reste pourrait être une déviance. Eh oui, c'est bien ce qui fait le mal. Ou véritablement, eh bien, ces individus, parce qu'il ne s'agit pas de moutons qui bêlent, il s'agit d'hommes qui parlent, qui écrivent leurs pensées, qui remplissent des bouquins, qui font des films. Alors on se plaint finalement, eh bien, de l'état de nos enfants, mais on les nourrit avec toi, avec quoi nos enfants? Avec de la violence, avec du sang. On les nourrit avec des armes, et ce qu'ils voient, ils ne touchent pas encore, mais bon, ça viendra. On les nourrit avec de la haine, à travers le cinéma, à travers la télévision, à travers... Alors maintenant... La boîte de Pandore a été ouverte et on se demande comment on va faire pour la fermer. Hein. L'informatique. Je ne suis pas contre. J'utilise tout ça. Mais c'est à nous d'être suffisamment clairvoyants pour dire oui et non. Oui quand c'est bien, non quand c'est non. C'est tout. Hein. On ne va pas épiloguer là-dessus parce que c'est comme ça. Alors, merci aux parents qui en sont conscients, mais il y en a beaucoup. Hein. Ouais. Merci aux parents qui, quelquefois, sont peut-être sans religion, peu importe, mais qui ont le sens moral. Et merci aux parents qui, quelque part, eh bien, éduquent leurs enfants, non pas dans une discipline de rigueur et de condamnation et de punition, mais selon, finalement, la compassion que tous parents doivent avoir pour leurs enfants, l'amour. Et moi, je dis, c'est terrible pour les chrétiens qui ne tiennent pas. Chrétiens, convertis à Jésus-Christ, et qui se sont laissés emporter par les vagues du monde, et qui font comme le monde. Et là, il va y avoir des résultats, qu'on a cela, qu'on a cela. On est quelquefois... Moi, je ne fais pas de politique, je voudrais vous le dire. Mais comment des pays peuvent-ils élire des présidents quand ce sont des gens qui n'ont... qui parlent de Dieu, ah ça c'est sûr, il n'y a pas de problème, ils connaissent l'Évangile, mais qui font tout le contraire de l'Évangile. C'est terrible, hein. Je ne suis pas américain. Hein. Mais quelquefois ça nous étonne, nous, de savoir qu'on a la bouche pleine du mot Évangile, de Jésus-Christ, la Bible sous le bras, on l'ouvre peut-être pas beaucoup, mais la Bible sous le bras, ça fait bien, hein. C'est une sacrée carte de visite, hein. Et que quelque part, on parle. On se comporte, on vit avec toutes les déprédations que nous voyons dans le monde et on les reproduit. La parole de Dieu les désigne comme des faux prophètes. Voilà, je suis en train d'aller un petit peu plus loin. L'apôtre Paul ne se gênait pas. Hein. Il rencontrait des faux prophètes, des gens qui annonçaient des nouvelles sur le temps et l'avenir et qui étaient que, excusez-moi, du pipeau. Je ne sais pas s'il était musicien, Paul. Il les appelle des faux apôtres parce qu'ils vont finalement faire de la mission dans tous les pays qui n'ont pas été touchés par le message de Jésus-Christ pour raconter finalement que ben, ils en ont fait un Christ humain un Christ. Ils ont démystifié la personne de Christ et sa parole. Paul nous parle de faux pasteurs aussi. Ah oui, des gens pour le titre et la dignité qui là, eh bien, ont été propulsés sans conviction qu'ils avaient à peine. Mais comme il y a des besoins, alors on met le premier qui tombe là. Et puis après, on s'aperçoit du reste. On s'aperçoit du reste. Les faux docteurs qui enseignent, finalement, eh bien là, des inepties, qui enseignent des choses qui sont quelque part, eh bien, qu'il ne faut pas annoncer, parce que ce sont des choses de faux. C'est pour ça qu'il est dit encore, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, parce qu'il y a des philosophies religieuses. Oui, il y a une certaine théologie, il y en a une vraie, et il y en a une fausse. Mais de toute façon, il y a toujours les ténèbres et la lumière hein, dans tout cela. Il y a toujours le vrai et le faux. Tout est comme ça. Hein. C'est très manichéen. Hein. Et une vaine tromperie s'appuyant sur les traditions des hommes. Faire comme tout le monde. Le mouton noir de Panurge. Oui, mouton de Panurge. D'où cette déclaration que nous avons dans le Nouveau Testament où, je crois que c'est Paul, ils ne sont pas des nôtres, mes frères et sœurs, soyons pas naïfs. Nous avons des preuves visibles, tangibles, de gens qui se disent chrétiens, qui se disent religieux, qui portent une étiquette là de chrétien ou de tout ce que vous voudrez, et qui ne sont vraiment pas chrétiens. Mais ils ont l'étiquette. Ils ont la recommandation. Ils ont été baptisés, alors. C'est pas parce qu'on est baptisé qu'on est converti. Hein. Vous savez, je vous le dis en toute franchise, c'est tous ceux qu'on a baptisés, ici et ailleurs, moi avant, je peux vous dire que les églises seraient pleines. C'est dommage, mais c'est comme ça. Mais dans le peuple d'Israël, il y avait les vrais Israélites. Et puis il y avait les faux. Et ils étaient nombreux. Et c'est souvent les faux qui faisaient, finalement, eh bien, chavirer la barque. Eh oui, alors on a des divisions, on a toutes sortes de choses, mais restons attachés au Seigneur et à sa parole. Parce qu'on ne va pas rendre compte pour les autres, on va rendre compte pour nous-mêmes. Et quand vous avez 20, 30, 40, 100, 1000 personnes qui pensent la même chose et qui vivent dans l'amour, eh bien, c'est eux qui vont influencer finalement les choses. Et on n'aura pas besoin de faire de propagande en disant « convertissez-vous, ceci et cela ». Mais le Saint-Esprit qui est à l'intérieur des gens, parce que Dieu parle même à des gens qui ne croient pas en Dieu. Comment on s'est converti? C'est parce que le Seigneur nous a parlé à l'intérieur. Ouais. On fait des grandes campagnes d'évangélisation, mais quelquefois ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Alors on entend des ténors, on entend finalement des tribuns qui parlent bien, qui sont formidables. Mais s'il n'y a pas l'esprit dans tout ça, s'il n'y a pas la conviction de péché, de justice et de jugement, ça ne sert à rien. Ça va être une émotion, ça va être du sentimentalisme, mais rien d'autre. Maintenant, je veux bien croire que Dieu se sert du sentimentalisme et de l'émotion. Hein. C'est converti comme ça aussi. Alors nous sommes devant un solennel avertissement, mes frères et sœurs, mes amis. Il est dit, prenez garde à ceux qui causent des divisions. La division, c'est un effet et c'est un poison. C'est véritablement, eh bien là, une des parties finalement, eh bien que tout déraille. Par des paroles flatteuses. Ah ouais, les gens qui aiment faire passer la main dans le dos des autres et qui sont toujours en train de dire, mais c'est bien, c'est formidable ce que tu fais, même si véritablement ça a des relents de scandale. Hein. Et qui séduisent les cœurs simples. Et Jésus nous pose la question dans le sermon sur la montagne, il dit, mais, non, c'est les disciples qui le posent à Jésus, et Jésus va répondre par une petite parabole que vous connaissez très bien. Comment les reconnaîtra-t-on? Alors, le temps de l'inquisition du Moyen-Âge, c'est fini. Mais ça peut exister encore même dans nos milieux. Parce qu'on veut tellement que les gens soient aux normes de ce que nous pensons, de ce que je pense, et si véritablement il y a un cheveu qui dépasse, comme la pauvre iranienne qui s'est fait assassiner, là. Elle avait une mèche de cheveux qui dépassait de son foulard. Allez, hop, terminé. Ben, ne soyons pas de ces gens-là. Hein. Parce que là, on va commettre des choses. Mais ça existe, hein, chez nous. Jésus nous dira, vous les reconnaîtrez à l'arbre et son fruit. Un bon arbre va produire de bons fruits, un mauvais arbre va produire de mauvais fruits. J'ai jamais vu un bananier produire des poires. Parce que ça va avec la nature. Si la nature est bonne, elle va rendre un bon fruit. Si la nature est mauvaise, elle va rendre un mauvais fruit et qui ne sera même pas de la même espèce. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, ça s'identifie, je précise, en vêtements de brebis avec des dents de loup. Ils sont doux, ils sont gentils, ils sont aimables. Ah, c'est beau, c'est formidable, c'est magnifique. Mais attention, dès qu'il y a une occasion, ils vont vous mordre. Ce sont des expériences que nous avons faites tous. Et puis après, on s'est aperçu que, ils nous ont fait mal. Donc, s'ils font le mal, c'est parce qu'il y a quelque chose de mauvais chez eux. La jalousie, par exemple. La convoitise de ce que j'ai et qu'ils n'ont pas. La méchanceté d'une vengeance. Et toutes sortes de choses. Ouais. La brebis en dents de loup. Avec des dents de loup. En faisant ressortir des violences. Des méchantes paroles. Des humiliations. Et ça, c'est très subtil. Un autre exemple, c'est ce qui nous est dit dans Matthieu chapitre 24. Je le raccourcis. Parce que c'est encore une mise en garde. Une mise en garde et une vigilance à être prudent. Oui, à être prudent. C'est un petit peu l'histoire de la chèvre de M. Seguin. Prudence et observation. Prenez garde à ceux. Prenez garde à ceux qui. Ils viendront en mon nom. Ah, pour que ça marche. Les brebis noires. Ils viennent au nom de Jésus. C'est ça. Ils viennent au nom de la religion. Ils viennent au nom du peuple. Ou du pape, ou avec d'autres confessions. On peut parler de Mahomet, et puis de Bouddha, etc., etc. Ils viennent au nom d'un dieu, enfin, prétendu dieu. Ils viennent au nom de Jésus-Christ, parce que ça, c'est vraiment le grand crédit. Hein. Ils viennent en mon nom. Écoutez ce que dit Jésus. Jésus répondit à la question des disciples. « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Car plusieurs viendront sous mon nom, en mon nom, accrédités par mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, ils séduiront beaucoup de gens. C'est moi qui suis le Christ. On en a eu des farfelus, hein, dans les milieux des sectes. Ouais, ils ont bonne mine. Hein. Alors, leur fruit, moi je vais vous le dire, c'est l'argent. C'est le pouvoir, c'est une autorité d'une parole fausse, c'est le viol des enfants et des femmes, parce qu'ils se servent au passage, et c'est une autorité implacable, qui vont mettre jusqu'à du poison, comme dans l'histoire de Guyana, dans les années 60-70, où il y a eu 1000 personnes, d'un fondu américain, d'un pasteur américain, qui a empoisonné plus de 1000 personnes avec du cyanure. Il est venu dans le nom de Jésus. Hein. Ce n'était pas Bouddha, ce n'était pas autre chose. Ça va, je ne vous déplais pas. Dites-moi, hein. Parce que moi, je voudrais que vous soyez des brebis blanches. Un autre exemple. Dans Romains chapitre 16, versets 17 et 18. Ce sont des troublions dans les sociétés, que la société soit chrétienne, dans les associations, qu'elles soient chrétiennes ou autres. Hein. Ce sont des faiseurs de désordre. Ils diront le contraire. Ce sont des contradicteurs. Ils ont toujours à ramener leurs fraises. Excusez-moi, c'est la saison. Hein? À ramener leurs fraises pour dire le contraire de ce qui a été dit d'une manière tout à fait sage et prudente. Ils viennent avec des paroles doucereuses, des flatteries, sur un fond de critique. Mais ça, on ne s'aperçoit pas. C'est au bout d'un certain temps qu'on s'aperçoit qu'ils jettent le poison. Qui jettent le toxique de la critique. Et parce qu'ils critiquent, ils vont être dévoilés. Mais ils font bien en sorte de ne pas être vus. Hein. Le maître mot pour nous, c'est veiller. Et attention de ne pas se laisser berner et de se laisser endormir par leur discours. Je vous exhorte, toujours Paul, frère, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Ouais. Alors, si le berger est aveugle, ben, je peux vous dire qu'il va rentrer beaucoup de monde. Hein, ce qui ne dira rien. Il ne dit rien. Il ne crie pas. Il n'aboie pas. Excusez-moi, pour un pasteur, ce n'est pas tout à fait ça. Parce qu'un chien dans un troupeau de brebis, il va aboyer. Hein. Vous savez, les patous, là, les gros blancs, ils ne sont pas noirs, ceux-là. Ils sont blancs. Encore un autre exemple. Galates, chapitre 3, verset 1er. L'apôtre Paul ira dire aux Galates qui étaient déviants, qui partaient un peu de tous les côtés. Il y avait naturellement les apôtres principaux que nous connaissons qui faisaient de la mission, Paul, Silas, voilà tout, ceux que l'on connaît. Et puis il y en a d'autres qui sont venus, qui se faisaient passer pour des faux, qui se passaient pour des vrais apôtres, hein, des faux pasteurs, etc. Il dira à un moment donné, Paul dira, mais qui vous a ensorcelé? Et là on touche une notion qui est une notion d'occultisme, ensorcelé. Il y a des gens, moi j'ai connu, hein, des gens, même des frères anciens hein, dans nos églises. Hein. Je peux vous dire que moi je les ai connus, ils étaient bien. Des gars, des frères formidables. Pendant des années, ils ont marché droit. À un moment donné, il y a un prophète qui se baladait un petit peu là, du côté de la Touraine, et puis on en a été victime. Et ils sont revenus à l'église, alors qu'ils aimaient leur église. Quand ils sont revenus, il revenait toujours en disant « Mais notre Église est morte. Notre Église, elle est morte. Nous avons connu quelqu'un qui est en train de réveiller et de faire une Église à côté. Ben » Moi, je peux vous dire aujourd'hui, 20 ans après, il n'y a plus rien du tout de ce que... C'était un faux prophète, c'était un faux... un mouton noir. Je vous parle par l'exemple, hein, et ce n'est pas des histoires. Encore un point. Dans Éphésiens, Paul... Chapitre 4, verset 14. Ces hommes ont la dextérité à mentir, à changer la nature des choses, à rendre, ce sont des experts, à rendre l'erreur séduisante. Comme à Saint-Nazaire, Saint-Nazaire renversant. Vous connaissez le second, mais là c'est Saint-Nazaire, c'est autre chose. Hein, c'est marqué partout. Oui, à rendre l'erreur séduisante. Et les gens, quand ils entendent ça, « Ah, mais ça, on n'avait jamais entendu parler de ça dans l'Évangile. » C'est une nouvelle, c'est une nouveauté. C'est quelque chose, « Ah oui, on n'avait pas vu comme ça. » Et ils tombent finalement dans le piège. Quand l'apôtre Jean nous dit, « Gardez ce que vous avez reçu dès le commencement. » Et ce qu'on a reçu devant le commencement, un nom, Jésus-Christ, sa parole, la vérité. Alors, on peut parler de contrefaçon. On peut parler de doctrine pseudo-évangélique en vogue. Ah, ça passe chez nous. Ça ne vient pas forcément uniquement de notre Europe, mais ça vient aussi de d'autres pays qui se disent plus spirituels que les autres. Il y a beaucoup de continents qui ont été séduits. Alors bien sûr, il y a différentes cultures, il y a différentes manières d'être, différentes manières de vivre, et de vivre sa foi, etc. Mais ce n'est pas de ça que je parle. C'est véritablement des déviations profondes dans la doctrine. Ce sont des séductions qui sont conçues sans scrupule, pour des intérêts personnels des gens qui les écoutent complaisamment, et finalement, eh bien, qui dévalorisent tout ce que ces gens, lorsqu'ils touchent à la perte de grand prix, au bien, alors à l'argent, c'est une vie d'esprit, hein, qui va tout dénaturer. Voilà. Et tout ça pour un but orgueilleux de fonction, de titre, de s'élever, une reconnaissance de spiritualité supérieure. Non, non. Il n'y a qu'une spiritualité, c'est celle que Jésus nous enseigne. Et on n'a pas à se vanter de ceci. Moi, je suis meilleur que toi. Je suis plus spirituel que toi. Et ne comptez pas trop sur les prières, parce qu'il y a des gens qui prient très bien, mais c'est vide. Et il y a des gens qui bafouillent. Et là, il y a une onction du Saint-Esprit. Équilibre. Voilà, ça se sait à un moment ou à un autre, hein, de toute façon. Alors, la nature de la séduction, je vais bientôt terminer, c'est captiver la pensée. Les forteresses de l'entendement, comme nous dit l'apôtre Paul. Captif de la pensée et de l'intelligence, c'est pour ça qu'il est question dans ce que nous avons lu, la proie par la philosophie et par une vaine tromperie. La philosophie décevante. Non, le christianisme n'est pas une philosophie. C'est la pensée de Dieu, dans sa vérité, dans sa lumière, dans sa puissance, et non pas une tergiversation et une combinaison du raccommodage de la pensée humaine. Je ne suis pas contre la philosophie. Il y a des choses que nous apprenons, il y a des choses qui sont logiques, il y a des choses qui sont bien. Mais attention, quand on mélange les deux, faisons attention. Voilà les grandes forteresses du christianisme depuis 2000 ans, c'est ça, hein. C'est devenu finalement des dogmes, c'est devenu de la philosophie pseudo-chrétienne, toutes sortes de choses comme ça, et on les a établies comme légendes et contes. Tout cela dévoile une religion sans rédemption. Écoutez bien, parce que ça c'est la fin. Une religion sans rédemption. Une repentance sans lendemain, un pardon sans accrédit, et ceux qui persuadent finalement qu'une quelconque confession de foi, voire même un baptême, eh bien, tout cela, c'est véritablement prendre la mesure que c'est de la fausseté. Eh oui, oui. Ça devient religieux, ça devient coutumier, ça devient finalement, eh bien là, une institution, une religion, religiosité, piété, et qui nous montre qu'il n'y a pas de rédemption. Une repentance, je le rappelle, sans lendemain, un pardon à crédit, parce qu'on peut bien se faire baptiser, et puis finalement, comme on l'a vu, hein, les gens se faire baptiser le dimanche, et puis à la fin de la semaine suivante, ils sont même plus chrétiens. Et il y a un problème chez le pasteur, parce qu'il aurait dû le voir. Il aurait dû le voir. Jésus nous rappelle, « Je suis la vérité et la vie. Suivez-moi, croyez-moi, vivez-moi. » Eh oui, c'est ça. Puis je voudrais ajouter quelque chose. C'est que la sincérité, on met l'accent sur la sincérité dans nos églises, hein, ne veut pas toujours dire vérité et authenticité. Vous avez des gens qui sont dans des confessions religieuses. Ils sont sincères. Vous ne pouvez pas le nier. Ils sont sincères. Et avec des paroles, ils vont apporter la preuve de leur sincérité. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont dans la vérité et dans l'authenticité de ce que Jésus attend d'eux. Alors, séducteur, bonimenteur, ça m'arrive de regarder dans le dictionnaire quand même pour en avoir un peu, dans le but est d'effacer le prix du sacrifice de Jésus. Et c'est ça, le diable est toujours gêné avec l'histoire de Jésus, avec la croix de Jésus, avec le Golgotha, avec la mort, la rédemption de Jésus, le pardon des péchés, l'absolution que Jésus nous donne à travers, eh bien, sa mort, à travers la résurrection, parce qu'il n'est pas resté dans la mort, il est ressuscité. Et ça gêne le diable. Et c'est le but d'effacer toute cette vérité, le prix du sacrifice de Jésus à Golgotha et sa résurrection, qui seule garantit notre salut si nous restons fidèles jusqu'au bout. Ça vous va? Vous m'en voudrez pas. Hein. Conclusion. Vous allez pouvoir respirer, mes amis. Il viendra des séducteurs qui trafiqueront de vous. Et je ne peux pas dire le contraire. Hein. C'est la parole. Et nous avons besoin de nous assurer si notre compte bancaire, si notre compte bancaire est bien approvisionné au crédit de la foi, en Jésus-Christ, le vrai, le véritable. Alors, on parle d'argent, on parle de banque? Hein? Eh oui, il y a quelquefois des comptes en banque qui sont vides, hein? Et on fait croire qu'ils sont pleins. Et quand celui qui, normalement, eh bien là, veut être payé, le créancier, il s'aperçoit qu'il n'y a rien du tout. Il s'est fait avoir en beauté. Oh, ça existe rarement maintenant. On est dans un monde où tout le monde fait confiance aux autres. Les arnaques, les deep news, les fake news. Mais on va où, là? C'est dingue! C'est fou, hein? Je termine par Tite. Pas par le titre, mais par Tite, chapitre 1er, verset 16. Il nous est dit que ces hommes-là font profession de connaître Dieu, en réalité, ils le renient par leurs œuvres, qui sont des œuvres, écoutez bien, abominables. C'est abominable aux yeux de Dieu d'avoir dans les églises, d'avoir au milieu de nous des faux frères, des faux prophètes, des faux tout ce que vous voudrez, tout ce qui est faux. Et leurs œuvres, ce sont des rebelles, des impies, incapables d'aucune bonne œuvre. Donc ce sont des mauvaises œuvres. Voici ce que sont les moutons noirs. Et c'est à nous de nous garder d'eux. Et je termine, parce que nous n'avons pas lu tout à l'heure, c'est dans le texte. Car en lui, en Jésus-Christ, habite toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, en Jésus. Donc je ne veux pas vous en dire davantage. Vous avez tout pleinement. Merci Seigneur de ce que tu nous as averti. Dans le sermon sur la montagne, dans l'évangile, à travers toutes ces belles histoires que nous avons dans la Bible. Jésus a parlé depuis 2000 ans. Il y en a bien qui ont parlé depuis 2000 ans. Mais leur mémoire a disparu. Terminé. Mais ce livre-là, il reste pour l'éternité. La parole de Dieu est une parole vivante. Une parole pour la terre, pour aller au ciel, tout simplement. Il a dépouillé les dominations, pour nous parler de sa victoire, les autorités, et il les a livrées publiquement. Ça s'est passé à Jérusalem il y a 2000 ans, sur la croix de Golgotha. Et nous en avons finalement 4 exemplaires, les 4, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Si nous n'avons pas assez, il faudra demander au Seigneur qu'il fasse un 5e évangile. Oui, il les a livrés publiquement, écoutez bien, en triomphant d'elles, tout simplement à la croix du calvaire. Que Dieu nous bénisse, mes frères et sœurs. Je ne vous ai pas affligés, je vous ai réconfortés. Alors, ouvrez l'œil, et surtout votre cœur. On va prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier. Parce que nous avons et nous nous plaisons à écouter les histoires, les témoignages d'hommes qui ont été illustres, d'hommes qui ont été fameux, d'hommes qui ont été exemplaires, d'hommes qui sont aujourd'hui appelés des saints. Beaucoup sont déjà dans le ciel. Il y en a encore sur la terre, c'est nous. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous faisons peut-être un peu moins attention qu'il y a parmi le peuple de moutons blancs, il y a aussi des moutons noirs. Et nous voyons que c'est bien l'histoire du mal, c'est bien l'histoire de la méchanceté, l'histoire de la guerre, l'histoire du mensonge, l'histoire qui n'en finit pas, et qui trouve sa source dans le grand séducteur, le grand menteur, celui qui tue les hommes que tu as créés. Merci mon Dieu, merci Jésus. Amen.